Vous êtes sur Studio ZEF à Blois ou Radio Béton à Tours et c'est l'heure de Feuilles Vives, l'émission de reportage entre ville et campagne. Trente-et-unième et dernière émission de Feuilles Vives aujourd'hui. Après 15 mois de diffusion, on termine avec un reportage sur la ressourcerie du Blaisois qui a ouvert ses portes dans le quartier Vienne il y a un peu plus d'un an. Les ressourceries ou recycleries sont des structures souvent associatives qui sont spécialisées dans le réemploi et la réduction des déchets. Ces activités, dépôt et vente d'objets d'occasion sur le modèle d'Emmaüs, mais aussi médiation entre particuliers et filières de recyclage spécialisées, organisation d'ateliers de réparation ou de création par la récup. Cet été et jusqu'au 5 octobre, la ressourcerie du Blaisois accueille une installation artistique libertaire, le Lucky Market, qui questionne, critique et moque notre rapport à la consommation, à l'art et aux déchets. On y revient en deuxième partie d'émission. D'abord, petit tour de la ressourcerie côté dépôt puis côté boutique, en compagnie de ses deux fondateurs, Cédric Marmuse et Muriel Lerneau.
Alors la ressourcerie, c'est un lieu de vie, sous sa forme actuelle, c'est un lieu de vie. On récupère des objets dont les gens n'ont plus l'utilité, qui peuvent avoir une utilité pour quelqu'un d'autre. Et puis l'idée, c'est d'éviter d'arriver à l'extrême, de jeter des objets dont on ne sait plus quoi faire. Voilà, donc éviter le gaspillage d'objets qui peuvent resservir. C'est à peu près ça la ressourcerie, et trouver du coup tous les moyens qui vont autour pour faire durer, pour allonger la durée de vie des objets.
Voilà, c'est ça, la partie arrivage. Donc on stocke la réception des objets, tout ça, machin. Et puis après on dispatche petit à petit dans le local. Du coup on prend les cartons d'objets qui sont arrivés là-bas.
Ouais.
On les emmène par ici. Et là, on arrive dans le stock atelier de tri, etc. Donc voilà, on prend le carton, on se met là, on regarde si les objets sont valorisables ou pas. Et s'ils sont vendables en l'état, ou si on leur passe un petit coup de chiffon, est-ce que c'est vendable ? C'est vraiment le lieu où on se pose des questions.
C'est tout ça. Tu sors un peu de carreau,
il y a tout et n'importe quoi.
Ouais, là, on a un peu de vaisselle, on a...
Donc ça, c'est une personne qui a déposé tout ça.
Ouais, voilà. Qui nous a laissé le caddie, c'est gentil.
Et en plus, il monte les marches.
Donc, ce qui est en l'état, ce qui est vendable, on le met après, on le stocke derrière. Donc là, toutes les grandes tables, c'est les trucs qui sont prêts à mettre en boutique. Les étagères aussi, de jouets... trucs de bricolage, bibelots, vaisselle, etc. Les vêtements, c'est comme les bouquins. Il y a une étape intermédiaire. On amène les sacs, on les met là dans les bacs. Et après, plus tard, quand on a le temps, quand il y a un bénévole qui vient, il s'occupe principalement des vêtements. Bon, alors les vêtements en mauvais état, ils partent principalement au relais. C'est une société de recyclage. De temps en temps, on a des ateliers couture, donc du coup on vient se servir dans les sacs qui sont destinés au recyclage, où on sort quelques vêtements pour se dire tiens, ça peut être sympa à recoudre, à bricoler, etc. En l'occurrence, en ce moment, on fait des sacs en t-shirt, sans couture, juste en découpant et en faisant des petits nœuds, pour faire des petits sacs pour transporter les légumes. Et là, on a les meubles en attente d'être montés. Donc ça c'est pareil, c'est quand on a le temps et l'espace, on monte un meuble et on le met en boutique. Et donc du coup, quand les objets ne sont pas valorisables, ça va à la déchetterie. Mais c'est très peu, hein. On a fait un estimatif de ce qu'on ne valorisait pas. On est à peu près à 95% de valorisation. Contrairement à toutes les ressourceries de France qui en moyenne sont à 85%. Alors attention, le recyclage, ça fait partie de la valorisation pour nous. Ce qui n'est pas valorisable, c'est vraiment ce qui part en déchetterie. Donc du coup, chez nous, c'est 5%, quoi. Nous, déjà, on oriente les gens vers la déchetterie, mais avec des pratiques un peu responsables. C'est-à-dire que là, on est à Blois-Vienne. Si quelqu'un nous amène un meuble en bois qui n'est pas en état, on va lui dire d'aller à la déchetterie, mais on va lui conseiller d'aller à la déchetterie Nord, parce qu'ils ont une benne écomobilier qui valorise le mobilier en bois, etc., contrairement à celle de Blois Sud, qui est juste à côté. Ouais. Même si on ne peut pas tout prendre, on se doit et on le veut d'orienter les gens correctement vers d'autres filières, quoi. Par exemple, on les envoie vers ADEPA pour tout ce qui est matériel informatique, on les envoie vers Vélo 41 pour des vélos qui ne sont pas en état. Quand c'est des vêtements qui sont vraiment trop sales, on leur dit, bon bah voilà, il y a les habits box, il y en a partout, n'hésitez pas. Quand on nous amène un tas de revues, je leur dis, bah non, voilà, ça sera la benne papier dans vos containers proches de chez vous. On est vraiment là pour conseiller l'usager de bonnes pratiques pour les filières de recyclage, etc., quoi. Donc quand les objets sont en état, eh ben, ils vont à la boutique.
Hop, par notre rideau. Artistes.
Donc du coup, on fait ça en dehors des jours de vente, le mardi et le vendredi matin.
D'accord, donc des jours où...
Ce qu'on appelle le réassort boutique, quoi. Ouais.
Vous allez bosser, mais où la boutique sera pas forcément ouverte au public.
Ouais, voilà. On peut être tranquille pour réassorter la boutique. Donc voilà, bah on met les meubles comme on peut, on fait les Tetris parce qu'on n'a pas beaucoup de place, alors on les entasse un peu comme on peut. On nous a fait la réflexion une fois, c'est pas très poussette friendly. J'ai fait, ah oui d'accord, bon, je vois ce que tu veux dire. Et donc du coup, de temps en temps, je prends une poussette pour voir si j'arrive à passer partout. On a un grand rayon vêtements quand même, pour la surface qu'on a globale, surface de vente. Et ça marche très très bien les vêtements, c'est, je pense... quasiment notre première source de revenus, de ressources. Parce que c'est pas cher, c'est en bon état, on fait ça bien. Non, c'est quand même sympa de pouvoir se fringuer à pas cher, avec des choses qui sont encore en bon état. Et voilà. Puis on est dans un quartier aussi où il y a quand même une mixité sociale qui est là. Donc y a des gens qui donnent, qui ont peut-être un peu plus d'argent, qui donnent des choses de qualité, etc. Et il y a des gens qui ont beaucoup moins d'argent, qui sont très contents de pouvoir venir se saper ici, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est pour ça qu'on est bien en Vienne, parce que il y a vraiment une mixité sociale qui équilibre notre activité, enfin qui en tout cas révèle l'équilibre de notre activité ici.
Nous, on a un critère, c'est la mixité. C'est-à-dire que notre vocation première n'est pas à vocation sociale. Le risque, on va dire, ce serait d'attirer qu'un public, on va dire, un public voilà un peu précaire ou voilà, et en fait justement on a plutôt réussi notre pari ici du fait de notre implantation aussi dans un quartier qui est où il y a une vraie mixité, où il y a des couches populaires, des gens, des cadres qui habitent des petites maisons avec jardin proches du centre-ville, etc. Donc on a là-dessus plutôt gagné notre pari. On a en plus la ligne A et D qui vient directement du quartier Nord. Donc on a aussi des gens du quartier Nord qui viennent ici. On n'a pas de grille vraiment sur la mixité, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va être usager de la boutique, qui vient faire des bonnes affaires, qui au bout d'un mois ou deux se rend compte qu'il y a des activités qui peuvent éventuellement l'intéresser, et puis un jour, elle saute le pas et puis elle se dit « tiens, je vais tenter ».
Là on a la petite salle d'atelier. Du coup, Mélanie, qui s'occupe des ateliers chez nous, s'installe ici avec les participants. Et puis c'est toutes sortes d'ateliers. Il y a les ateliers couture, ateliers réparation d'électroménager. Mais c'est les gens qui viennent avec leur propre petit électroménager à réparer. Nous, on va pas réparer ce que les gens nous amènent. D'ailleurs, on les incite à aller eux-mêmes à la déchetterie si ça marche pas. Et puis, voilà, après, on a des ateliers à thème. On avait fait des abat-jours, du relooking d'abat-jours. On avait fait quoi La réfection de chaises aussi.
C'est pas ce qui va en effet absorber, on va dire, le flux. C'est plus une façon de sensibiliser les gens à la cause qu'on défend, c'est-à-dire éviter de jeter. Parce que l'idée, c'est de sensibiliser les gens à ça. C'est de sensibiliser les gens à la surconsommation et au fait qu'on vit dans une société où il y a profusion d'objets et que ça devient assez insensé.
C'est vrai que tout ce qu'on fait est finalement peut-être un peu anecdotique. Anecdotique, pardon, en matière de sensibilisation. Mais malheureusement, c'est un peu le lot de la sensibilisation en général. C'est-à-dire que c'est les actions un peu ponctuelles, avec peu de matière, etc. Mais c'est juste pour sensibiliser les gens à la réutilisation. Et donc, il y a des personnes aujourd'hui qui ne se posent pas du tout ces questions-là. Il y a une fois où on faisait du relooking de petits mobiliers, là, il faisait bon, c'était mis dans la cour. Donc du coup, les gens qui passaient regardaient ce qu'on faisait. Et des personnes, on sent qu'elles n'ont pas forcément l'habitude d'employer les mots qu'on utilise chez nous, etc. Mais elles disaient quand même à son gamin, tiens, tu vois, ça c'est bien, c'est que plutôt que de jeter le meuble moche, là, et ben, il, je sais plus comment elle me dit, enfin voilà, il le décore, quoi. Et donc, voilà, c'est des petites phrases comme ça, anodines, mais qui vont circuler, du coup, peut-être dans des milieux sociaux où ces valeurs-là ne sont peut-être pas assez véhiculées. Et ben voilà, c'est aussi ça la sensibilisation, c'est peut-être ça un peu la plus-value. C'est des petites choses comme ça, de pas grand-chose, mais qui font que il y a des valeurs auxquelles on tient, qui circulent dans des milieux qui ne sont peut-être pas assez touchés par tout ce discours de effectivement de citoyenneté, écologie, etc.
Si on dit aux gens qu'il faut arrêter de consommer, enfin arrêter, entre guillemets, c'est compliqué, parce qu'il y a des gens qu'on n'amènera pas vers nous.
Consommer comme on l'a fait jusqu'ici, quoi.
Ouais.
Ce qui revient à dire, parce que on est tellement, cette habitude de consommation, elle est tellement ancrée qu'on voit que celle-là, finalement.
Ouais.
C'est comme en disant, quand on dit aux gens arrête de prendre ta bagnole,
oui.
La personne va l'entendre comme arrête de te déplacer.
Alors que exactement.
Non, il y a pas de manière, donc là, c'est pareil, quand on dit
c'est exactement
arrête
la même chose.
D'aller ouais. Acheter tout ce dont tu as besoin au centre commercial,
ouais.
Et ben, la personne elle va entendre ça comme arrête de consommer ce que tu veux.
Exactement.
Alors que finalement, il y a d'autres solutions qui existent.
Exactement. Et l'idée, c'est plutôt d'amener les gens à d'autres solutions. Et pas faire de morale, on va dire, sur le sujet, parce qu'il y a des gens, sinon, on va les braquer. Ce serait dommage. C'est exactement ce qu'on disait sur les gens qui viennent initialement ici pour faire de bonnes affaires. Au fur et à mesure, ils comprennent la démarche, et donc, de cette manière-là, eux-mêmes se sensibilisent à la question.
Mmh.
Et c'est ça, l'idée, c'est d'amener les gens, petit à petit, à comprendre leur propre rapport par rapport à la surconsommation et ce que ça crée en termes de déchets, etc.
En partant de leurs habitudes, finalement, de consommation
ouais,
courante,
en...
quoi, qui est d'essayer
exactement.
De trouver des objets à pas cher.
Tout à fait. En partant des habitudes de consommation courante des gens.
Partir des habitudes de consommation courante, c'est également le pari que fait le collectif d'artistes du Lucky Market qui détourne les matériaux et les codes de la grande distribution, à la fois dans le contenu de ses œuvres, dans sa technique artistique et dans son dispositif d'exposition. Sa galerie d'art Discount expose à la ressourcerie jusqu'au 5 octobre prochain. Les œuvres d'art diverses côtoient des bacs remplis de petits cadres en carton sur lesquels sont collées des photos de magazines. On écoute le plasticien Stéphane Bodinski, le tatoueur Delphin et le logisticien du trio Cédric Joubert.
C'est une installation, donc installation et occupation provisoire ou définitive d'un espace défini, voilà, c'est très vague. Donc nous, ça se présente sous la forme d'un faux magasin avec des rayonnages de type supermarché où sont entassés, selon les cas, soit des emballages récupérés, retravaillés à but conscientisant sur les comportements de consommation de masse, et donc des fois aussi avec de l'art, ce qu'on appelle nous, entre nous, art discount, ou qui sont des œuvres créées à partir de déchets, de la récupération, sans sujet défini précisément, au plaisir des ateliers, et qui sont diffusées à prix modique lors des montages, et proposées donc au public, une interaction soit intellectuelle ou soit d'achat, de consommation. On a fait des installations jusqu'à 100 mètres carrés avec 24 mètres linéaires de rayonnage, donc avec des choses plus diversifiées. Le thème du vin, le thème du commerce équitable, le thème des conséquences écologiques, des modes de production. Et au départ, il y avait ce petit rayon art en bout de magasin qui était un clin d'œil au Jiffy, Babou, tous ces magasins-là où on trouve de l'art en rayon, des super trucs pas chers pour la culture de masse. On prenait un peu le contre-pied de la démarche des autres artistes en essayant de bousculer un petit peu plus dans des réflexions autres que dans la peinture de décoration. Mais on avait repris ce code du coup des magasins discount où on vend de la décoration à pas cher.
Nos outils, c'est les ciseaux, les massicots, la colle blanche pour faire les collages. Et puis bah, il nous faut de la ressource. La ressource, ce qu'on appelle la ressource, c'est les prospectus qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres. Ça nous est déjà arrivé d'aller les chercher par paquet de 10 ou de 25 directement dans les magasins, à l'entrée des magasins, quand ils laissent les prospectus en libre service. Donc on a des gros paquets de prospectus où on peut découper au massicot, on tombe toujours sur les mêmes pages. Du coup on peut choisir une couleur ou choisir quelque chose qui nous plaît, une image qui nous plaît, on la découpe au massicot et puis après on est libre de la recoller sur ce qu'on veut et on peut faire des compositions, des montages sympas, mettre des champs de blé sur la banquise, mettre des choses comme ça, on peut tout imaginer en fait. Donc tous les messages qui seront bons à faire passer, on peut les faire passer à moindre coût.
Et puis on peut surtout les répéter en série aussi, vu qu'on a les mêmes images, 25 fois la même image, on peut... ça permet de faire voilà, quoi.
Et de des œuvres. Un motif ou une couleur et de...
Ouais, voilà.
Et donc l'idée de départ, c'était aussi de pouvoir créer sans aller dans ces boutiques d'art plastique avec des matériaux très chers et où c'est contraignant pour les artistes de créer, il faut un budget, tout ça. Donc là, on travaille directement, on a commencé avec directement nos propres déchets, nos propres emballages, de notre propre consommation, et avec les premières pubs, celles de la boîte aux lettres, quoi, au départ. Et après, ben, en agrandissant le concept, on a augmenté la ressource, mais toujours avec du gratuit. Quoi. La seule chose qu'on achète, c'est la colle. Quoi. Même des pinceaux, on a réussi à en récupérer. Stock d'anciens instits, trucs comme ça.
Il y a un peu de peinture et il y a beaucoup de logistique. On monte, on utilise les codes de la grande distribution pour faire de la masse dans les rayonnages. On met des rayonnages, les mêmes gondoles que vous retrouverez dans les magasins au Leclerc, et puis on fait du discount sur l'art. L'idée, c'est qu'on n'est pas en galerie et qu'on peut proposer de l'art à tous les prix et qu'on peut repartir avec un modèle unique à 1 ou 2 euros ou un peu plus si on apprécie et qu'on s'investit plus. Voilà, donc comme dans un magasin, vous pouvez regarder, vous pouvez acheter, on a une caisse, c'est exactement pareil.
C'est rigolo.
Il y a tous les thèmes, et en fait, quels sont nos thèmes? C'est les thèmes qu'on va retrouver aux infos, à la télé, c'est les thèmes qu'on va retrouver dans les journaux, dans Le Monde, dans Le Canard Enchaîné, dans tous les journaux, et c'est les thèmes qu'on retrouve dans les pubs. Donc si par exemple, je sais pas, c'est la foire au porc à Cora, bah nous on va se taper dans nos boîtes aux lettres des journaux avec la foire au porc, et du coup on pourra faire une thématique sur la surconsommation de viande et la production de viande aujourd'hui. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, peu importe, c'est pas forcément ouvrir le débat. Nous on met le doigt là où ça fait mal, on dit bon bah voilà, on a des empilas de prospectus avec la foire au porc ou la foire au gras ou des trucs comme ça, donc voilà, nous on transforme, on fait notre sauce et puis on met ça. Si demain demain on va vendre des piscines, et ben tant mieux, ça nous fera du pigment bleu et on aura des petits pixels de 1 mm ou 2 mm de côté bleu, et du coup on aura toutes les déclinaisons de toutes les couleurs de piscine et on pourra créer d'autres choses et faire d'autres choses.
Et un côté un peu bricolage et un côté plastique. Bricolage plastique, et il y a un côté peinture où là c'est vraiment une œuvre, pas à part entière, mais voilà, il y a une démarche de peindre une toile ou de peindre une planche. Mais il y a le côté tout ce qui est les petits bricolages en carton, voilà, là c'est des fois on s'embête un peu moins, on pousse pas forcément la démarche artistique, on colle une image et puis ça fait un cadre.
C'est
mais
propre,
parce que c'est voilà, c'est mais ça reste quand même un modèle unique et ça reste, il y a quand même une démarche artistique derrière, c'est pas juste on fait de l'art par-dessus la jambe, c'est dire bah voilà, il y a une un peu moins de recherche sur les bricolages, entre guillemets, c'est pas du bricolage, c'est carré, c'est bien fait quand même, mais voilà, il y a peu de pôles comme ça.
Bah, le but n'étant pas vraiment de produire une œuvre d'art, mais un objet qui ressemble beaucoup, qui alimente l'installation et qui parle aux gens, en fait. Les gens pourraient voir ça, par exemple, un tableau.
Et
voilà, c'est ça, ça remplit la fonction, mais c'est pas fait pour au départ, quoi. Au départ, c'est vraiment pour nourrir l'installation, amener une critique sociale de divers phénomènes. Et il s'avère que sous cette forme, les gens se prêtent au jeu et au final, on retombe dans les codes de la consommation, quoi.
Au début, on avait mis toutes les boîtes, donc il y avait de l'art, des cadres et des boîtes, et les gens voulaient acheter les boîtes. Du coup, de là, on s'est dit, bah, peut-être l'idée du faux magasin, il faut bosser là-dessus et essayer vraiment de faire du rayonnage, du massif, réutiliser les codes de la grande consommation. Et petit à petit, en bossant ça, on en est venu à un truc qui ressemble un peu à ça.
Parce qu'on travaille avec des affiches, des magazines, des prospectus de la grande distribution. On reprend des slogans sympathiques comme... celui de Leader Price.
Tous unis contre la vie chère.
Ça, c'est Intermarché, ouais. Leader Price, je sais plus c'est lequel. C'est aussi celui de Carrefour qui est bien, profite tout de suite. On l'aime beaucoup, celui-là. Ou Suite Cora, comptez sur nous.
On avait détourné le logo du commerce équitable Max Savlar. Et nous, on avait fait Max Lavar. Donc, on avait détourné ça. On a détourné plusieurs slogans, plusieurs logos pour essayer de. Mais d'en jouer, en fait, on reprend la recette qui marche. Qu'est-ce qui marche? C'est des slogans sur des boîtes pour essayer de les vendre. Bon, bah nous, on a pris des slogans, on les a mis sur des boîtes et on essaye de les vendre.
Quand on est en représentation publique, on se revendique plus vendeur que créateur. On va pas mettre en avant le fait de l'avoir fait nous-mêmes. On va plutôt mettre en avant le fait que c'est pas cher, qu'il faut rentrer chez soi avec une œuvre d'art pour décorer, c'est sympa.
Et puis qu'on fait,
prendre un peu de sous aux gens au passage pour continuer à...
Et que c'est pour le Lucky Market et pas pour un.
Pas pour un artiste, voilà, les artistes sont pas nommés, sont pas mis en valeur. Ce qui est mis en valeur, c'est le Lucky Market, la chaîne,
l'entité
de distribution. Dans l'œuvre d'art, elle commence avec l'installation et elle se termine avec l'acheteur.
Steph ?
Oui ?
Et toi ? Lui, il est combien ?
5 ?
Hein ?
6 ans ?
12,39.
12,39.
Allez, on le fait à 13, parce qu'on n'est pas des enculés.
14.
14, ouais, pas de problème. Ouais,
39, ça sonne pas.
Donc 24 plus 14, 38.
Voilà. Plus de TVA.
Eh, ça fait 40. S'il veut une facture, c'est pas un hasard. Tu mets une facture à 40.
Non,
mais ça fait 15. J'ai réussi à vendre une page du Télérama, une pub McDonald's, 5 euros à un Américain. Il était très content. Et nous aussi. Et oui, donc après, dans l'interaction avec le public, les exemples sont vraiment divers. Il y a des gens qui, ça passe de l'incompréhension totale à un certain intérêt et à du fanatisme de consommation, quoi. Je me rappelle d'une dame qui s'en mettait plein les bras en regardant les prix, en nous interpellant, parce qu'on était un peu plus loin. C'est les vrais prix. On dit oui, oui, elle était toute contente. Puis à la fin, elle arrive, elle dit, je peux vous faire un chèque. Bah non, on prend pas les chèques. Donc, ah, mais j'ai plus assez d'argent et tout. Donc, bah vous avez combien? 25 euros. Bah prenez le lot, donnez 25 euros. Et, ah, c'est vrai. Puis bah, du coup, elle est partie en courant avant qu'on change d'avis, et tout, en cas, dans le doute. Et bon, bah voilà, elle était très satisfaite, mais elle a pas posé une question sur le concept, sur la démarche, le pourquoi du comment. Elle s'est éclatée toute seule, quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi ça marche, moi ça me tue, ça ne devrait pas marcher, ça devrait être la révolution. Quoi, mais...
Utiliser des déchets d'emballage ou des prospectus issus de la grande distribution pour créer des œuvres qui dénoncent ces excès dans un dispositif d'exposition qui imite ces codes. Résultat, des rayons, des bacs, des cadres, des étiquettes avec des prix et les gens achètent. J'ai perdu 10 balles comme ça pour me retrouver avec une croupe de moutons et un bonhomme 7LM assis en tailleur dans ma bibliothèque. Les gars m'ont dit qu'ils liquidaient le stock, qu'ils me faisaient les deux à 50%, j'ai pas pu résister. J'ai longtemps hésité à parler de la ressourcerie dans cette émission tant le lien ville-campagne y est pour le moins ténu. Et c'est en grande partie cette exposition du Lucky Market et la critique de la consommation de masse qu'elle porte qui m'ont finalement convaincu. Au cours des 30 émissions précédentes, revenait sans cesse le thème de la grande distribution et de ses impacts sur notre mobilité, sur nos paysages, sur nos modes de production et de commercialisation des produits agricoles, bref, sur notre relation au territoire. Partant de là, tout ce qui peut questionner notre archi-dépendance pour notre approvisionnement quotidien envers le supermarché ou le centre commercial, mastodonte, lait bétonné, froid, polluant et abrutissant, est un pas de plus vers l'élaboration d'une relation ville-campagne enrichie. Or, le déchet, c'est le refoulé, la grande névrose de notre société consumériste, matérialiste, productiviste. Conscient de son coût financier et environnemental pour la collectivité, le pouvoir politique cherche à organiser la diminution de nos déchets. Résultat, les ressourceries généralistes ou spécialisées, ateliers de réparation de vélos, acteurs traditionnels comme Emmaüs ou la Croix-Rouge, débordent du surplus dégagé par notre appareil de production, un surplus auparavant invisible puisqu'il finissait intégralement à la benne, puis dans les flammes ou sous terre. Car si les solutions pour absorber et valoriser les flux de déchets se multiplient, pas grand-chose n'est fait pour tarir la source de ces flux. Et ces flux tirent précisément leur source du matérialisme, du productivisme et du consumérisme qui règnent sur notre division du travail, sur nos représentations symboliques et sur notre organisation sociale. Et comme on chérit les causes dont on maudit les effets, notre élite politique et économique dit vouloir réduire les déchets, la pollution de l'air, les inégalités sociales, sans toucher surtout pas à nos si grands et inamovibles totems que sont croissance, plein emploi et pouvoir d'achat. C'est la fin de cette 31e et dernière feuille vive sur la ressourcerie du Blaisois et le Lucky Market. Demain, samedi 25 août, l'équipe de l'émission sera en direct du festival Vienne en goguette pour un dernier plateau aux métairies du Pont-Saint-Michel sur le thème de l'agriculture urbaine et de ses contacts avec consommateurs et habitants. Toutes les infos et le podcast de ce reportage dans la rubrique Feuilles vives du site studiozef.fr. Zéfeurs et zéfeuses, adieu.
Un bon fermier découvrit un matin, dans sa basse-cour, une poule fort étrange.
Viens donc, Mehdi, viens donc voir, je croyais aux mains que la noiraude a quelque chose qui la démange. Elle a l'air contente, elle n'a pas l'air méchante, mais pour ce qu'elle chante, j'y comprends rien. Elle fait, tiens, écoute là, elle fait... Oh,